Très bien, allons-y. C'est parti. Jean Daillon, j'ai envie de commencer avec vous. Vous êtes docteur d'État en sciences économiques. Ça, c'est tout de suite pour plomber l'ambiance. Vous avez fait une grande partie de votre carrière à l'université en tant qu'enseignant en histoire économique et macroéconomique, puis dans l'administration des finances. J'ai juste jusque-là.
Oui, oui.
Administration des finances que vous quittez en 2007 pour vous consacrer à l'écriture de romans policiers historiques.
C'est ça.
Mais qu'est-ce qui s'est passé ?
Il s'est passé que j'écrivais déjà, et puis à un moment, j'ai plus gagné d'argent en écrivant que ce que j'en gagnais comme fonctionnaire aux finances, donc il fallait faire un choix.
Ah ouais, ça marche bien. Hein.
Voilà.
Alors, vos principaux personnages jusqu'ici étaient Louis Fronsac.
Voilà, qui était le premier au XVIIe siècle. Après, j'ai eu d'autres personnages.
Il y a eu Guillaume Ducel.
Voilà, et puis est arrivé Guillaume Ducel, qui est arrivé tout à fait par hasard, ça ne devait pas être une série, puis c'est devenu une série qui marche très bien.
Il y a aussi Olivier Hauteville.
Olivier Hauteville, qui était au départ une série de trois livres chez Lattès, puis qui a débordé sur d'autres titres.
Et puis là, alors, il y a probablement une nouvelle série qui commence.
Voilà, oui.
Avec une étude en écarlate, vous nous invitez à suivre les aventures d'Edward Holmes. À l'époque de la régence du duc de Bedford. Moi, j'aimerais que vous racontiez comment vous avez rencontré ce personnage. C'est une histoire qui remonte à 20 ans, pratiquement.
Alors, oui, Edward Holmes, c'est un personnage un petit peu secondaire, dans le sens que ce qui m'intéressait depuis pas mal d'années, qui me fascinait, c'était la période... Alors, évidemment, la plupart d'entre vous sont suisses, je suppose, mais donc je vais vous parler de l'histoire de France. Entre 1420 et 1440, en gros, en simplifiant, pendant 20 ans, la France était anglaise. C'est-à-dire que le roi de France, c'était d'abord Henri V, enfin, qui a été régent, puis son fils, Henri VI, qui a eu lui-même une régence parce qu'il était tout petit. Donc ça, en gros, c'est l'histoire de Jeanne d'Arc apparaît en 1429. Donc, ce qui était fascinant, c'était que Paris a été ville anglaise, c'est-à-dire le Louvre était occupé par les Anglais, les principaux hôtels particuliers, l'Angleterre dirigeait la France. Et cette période d'histoire est gommée par les Français. C'est-à-dire que ce qui les intéresse, en gros, c'est qu'on a un roi qui est Charles VI, qui est fou, qui va être fou pendant à peu près 25 ans. Et puis quand il meurt, son fils, Charles VII, dit le dauphin, c'est celui qui recevra Jeanne d'Arc, devient roi. Il y a une sorte de continuité, hein, on passe de Charles VI à Charles VII. Alors qu'en fait, l'histoire ne s'est pas du tout passée comme ça. Hein, Charles VI est fou et le royaume a été cédé à l'Angleterre par le traité de Troyes. Et il ne devait y avoir plus qu'un seul pays, la France et l'Angleterre. Ça aurait pu marcher s'il n'y avait pas eu Jeanne d'Arc. Mmh. Et donc, voilà, cette affaire de Paris-ville anglaise, je trouvais ça, c'était presque de la science-fiction. Hein. Et donc, assez naturellement, quand je me suis dit, je vais écrire un ou plusieurs romans policiers sur cette époque, je me suis dit, puisqu'il y a des Anglais, pourquoi l'enquêteur ne serait pas anglais ? Et puis voilà, mais pourquoi ce ne serait pas l'ancêtre de Holmes, qui aurait le même nom ? Et donc, j'ai inventé un clerc anglais,
oui, mais alors, Edward Holmes. Non, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que vous êtes tombé par hasard sur une lettre de Conan Doyle datant de 1884. Voilà. Et dans cette lettre, il faisait référence à un manuscrit.
Voilà, les chroniques d'Edward Holmes. Mais ça, c'est un peu inventé, hein, il faut dire.
Alors, donc, mais c'est bien,
il y a un mélange entre le vrai et la réalité. Par contre, ce que je peux quand même vous raconter, qui moi-même m'a surpris, donc, c'est que Edward Holmes est un clerc, c'est le demi-frère d'un noble anglais qui a vraiment vécu, qui s'appelle le baron de Ross, et qui a été tué à la bataille de Baugé. Et donc, ce baron m'a permis de raconter un petit peu la vie de Holmes. Et puis, j'ai écrit le second tome, qui sort dans 3 mois, qui s'appelle « Le chien des Basquevilles ». Basqueville, petit village de Normandie, dont la famille de Basqueville a donné les Baskerville en Angleterre. Hein. Et vous avez tous entendu parler du chien des Baskerville. Donc le chien des Baskerville, et ça se passe au château de Baskerville, qui n'existe plus, mais le village existe toujours. Et ce château appartenait au baron de Ross, c'est-à-dire que le roi d'Angleterre, Henri V, l'a donné au baron de Ross. Et pour la petite histoire, je ne m'appelle pas Jean Daillon. Jean Daillon, c'est un faux nom. C'est le nom de mon épouse, à vrai dire.
Et elle s'appelle Jean Daillon.
Non, elle s'appelle Daillon. Et mon vrai nom, c'est
Conan
Jean-Louis
Doyle.
Ross.
Ah, pardon.
Donc, non, même nom.
C'est incroyable. Voilà.
C'est incroyable.
Ouais, ouais.
Mais ça, je l'ai découvert après.
Alors, allons-y avec une étude en écarlate. Votre intrigue principale porte sur le complot monté par Lady Mortimer contre son cousin, le roi Henri V. Lady Mortimer et son frère étaient les héritiers légitimes. Voilà. Ils ont été dépossédés d'une certaine
manière. Alors, c'est une histoire vraie, hein, sauf que moi, oui, j'ai inventé...
Juste avant, c'était une histoire fausse, et maintenant, on est dans une histoire vraie.
Voilà. Ben, alors, l'histoire vraie, elle est racontée par Shakespeare, hein, ça s'appelle Henri IV. C'est l'histoire du complot de la succession anglaise. Hein. Alors, l'histoire de l'Angleterre est très différente de l'histoire de la France. Les rois anglais ont passé leur temps à s'entretuer et à tuer les enfants des différentes branches. Bon, Shakespeare, c'est grâce à ça que Shakespeare a fait sa fortune, hein, si je puis dire, parce que s'il n'avait pas eu tous ces rois qui s'étaient entretués, il serait resté totalement méconnu, le pauvre. Et ben, en gros, on a un roi d'Angleterre, hein, qui s'appelle Édouard III, et il a trois enfants, et puis ben, il y a la descendance des trois enfants, qui sont les Lancastre, les Clarence, et puis la descendance du prince noir, vont s'entretuer, hein, vont se déposséder, et finalement, c'est la branche la plus cadette, les Lancastre, qui prend le pouvoir, qui fait apparaître Henri IV et après son fils Henri V. Et la branche intermédiaire, les Clarence, qui a été dépossédée du trône, l'une des filles va se marier avec un nommé Mortimer, et ça donne un complot très célèbre qui est traité dans Henri IV de Shakespeare, dont les hommes du complot finiront le ventre ouvert, on leur arrache les tripes. Parce que les Anglais aiment bien les tortures, hein, j'aime bien ça.
Il hein. Oui, n'y a qu'à aller manger en Angleterre.
Voilà. Donc, je me suis inspiré de ce complot, sauf que moi, je l'ai mis à la génération suivante.
Alors, une intrigue, ça ne vous suffit pas, visiblement. Il y en a une deuxième qui vient s'ajouter. C'est celle de la vengeance de Robert de Lusignan.
Voilà. Alors, bon, ça, c'est un petit peu inventé, mais pas trop. Dans le sens que cette époque... les 20 ans où Paris a été ville anglaise sont précédés de 10 années absolument effroyables à Paris, de massacres inouïs qui ont lieu en 1413 et en 1418. Alors pour vous donner une idée des massacres, autour du Châtelet, on avait du sang jusqu'à la cheville, du nombre de Parisiens qui ont été assassinés et tués. Bon, c'est ce qu'on appelle la guerre entre les Armagnacs et les Bourguignons, la maudite guerre. Voilà. Et d'où le titre, entre autres, une étude en écarlate. Mais ce n'est pas la seule raison. Et donc, dans cette période-là, il y a eu un massacre, comme la Saint-Barthélemy, un petit peu, hein, on peut dire. Hein, et donc, c'est l'un des personnages, on a massacré sa famille à cette occasion-là, il veut se venger.
Alors moi, je vous soupçonne, Jean Daillon, d'avoir écrit ce livre juste pour nous parler du Paris du XVe siècle. Et vous en parlez formidablement bien, avec force détail. J'aimerais savoir le travail qu'il y a là derrière, parce que réussir à nous restituer tous ces objets, ces choses de la vie quotidienne, il y a un formidable travail.
Ben oui, mais enfin bon, oui, mais comme j'avais déjà écrit sur le Moyen Âge, vous savez,
il est modeste en plus.
Non, mais dans l'ancien temps, les choses changent assez peu. Ce qui change, c'est par exemple le style d'habillement des gens, et puis l'architecture aussi forcément entre le XIIe et on va dire le XVIe siècle. Mais par contre, la vie des gens est la même. Hein. La vie des pauvres gens, on va dire, on s'éclaire toujours qu'avec des chandelles, les maisons ont de la paille sur le sol pour pouvoir les nettoyer facilement. Il y a une vie, les rues sont toutes sales et remplies de merde. Je veux dire, tout est très stable, hein, pendant, en gros, jusqu'à la Révolution française. Mais c'est pas propre à la France, hein, en fait. Hein. Peut-être qu'en Suisse, c'était plus propre, parce que les Suisses sont plus propres que les Français. Mais...
Oui, était. Tout fout le camp. La mondialisation nous a rattrapés, mon cher monsieur, et y compris au niveau des déchets dans les rues.
Donc, voilà, mais sur le XVe siècle, en fait, le XVe, on a quand même énormément de sources, et puis on a surtout beaucoup de contemporains qui ont écrit cette période-là. C'est une mine d'or. On a en particulier le journal d'un bourgeois de Paris, on a deux ou trois personnes, comme ce fameux bourgeois de Paris, qui ont écrit au jour le jour ce qui se passait pendant 40 ans. Donc, ils disent, alors aujourd'hui, il fait tel temps, il pleut, il y a du soleil, on a pendu d'un tel à tel endroit, voilà l'affaire qui s'est présentée au Parlement. Et donc c'est une mine, hein. Vous voulez situer votre affaire entre tel jour et tel jour, vous savez tout ce qui s'est passé, comme un journal télévisé. Donc, en fait, on est très documenté.
Vous faites un véritable travail d'historien, parce que les historiens, on a toujours l'impression qu'ils ont des sources qui racontent tout. C'est pas vrai, ils ont des sources qui racontent certains moments. Et, ah ben ouais. Et il faut beaucoup, à partir d'autres sources, broder ce qui manque.
Bien sûr. D'ailleurs, on s'en rend bien compte, si on s'intéresse un petit peu à l'histoire, si vous lisez une biographie, vous allez retrouver des phrases entières qui sont prises, en fait, des mémoires de tel ou tel. Hein. Mm-hmm. On a ça très bien pendant la Fronde en France, hein, où il y a tous les historiens qui racontent la Fronde, ben, ils se cassent pas la tête, ils prennent les mémoires du cardinal de Retz et ils les recopient. Hein, tout est raconté.
Eh oui. Alors je vais essayer de résumer l'affaire, parce qu'elle n'est pas simple. Anglais contre Français, Charles VII contre Henri V, Charles VII contre sa mère Isabeau de Bavière, Armagnac contre Bourguignon, Mortimer contre Lancastre.
Oui.
Comment vous en êtes sorti?
Ben alors, en fait, c'est une période très romanesque, parce qu'en plus, bon, là, j'ai situé les choses pour pas mettre en appétit si ça peut vous intéresser ou non, mais on a des personnages extraordinaires, comme Isabeau de Bavière.
Oui.
Alors, Isabeau de Bavière, c'est la reine de France. Hein, c'est un personnage qui est traité de plusieurs façons par l'histoire. Soit c'est une pauvre femme qui a eu plein d'ennuis, soit c'est une grosse cochonne qui couchait avec tout le monde et qui tuait tous ses amants. Donc, on a deux vues.
Une montre religieuse.
Voilà. Alors, la grosse cochonne, c'est le marquis de Sade, qui a écrit l'histoire de sa vie. Alors ça, c'est tout à fait extraordinaire à lire, parce que, selon le marquis de Sade, tout ce qui est arrivé comme malheur en France pendant 40 ans, c'est elle. Alors, même la pluie et le beau temps, hein, quasiment. Hein, donc c'est assez extraordinaire. D'accord. Comme il a pris parti. Hein. Okay. Et pour d'autres auteurs, par contre, c'était simplement une pauvre femme qui a pas eu de la chance, son mari était fou. Elle a quand même eu 11 enfants, 12 enfants, le dernier étant mort-né. Et vous le savez peut-être, ou non, beaucoup disent... On saura dans la suite qu'elle serait la mère de Jeanne d'Arc. Ah.
Vous nous disiez tout à l'heure que le tome 2 était sur le point de sortir, oui. Donc j'imagine que vous êtes en train d'écrire le 3.
Oui, enfin, entre-temps, il y a un recueil de nouvelles qui va sortir.
Oui. Mais, pour rester sur cette série, le 3, c'est quoi? C'est les 4 cycles.
Le 3, c'est deux nouvelles, une qui s'appelle « Les 5 médailles » et l'autre qui s'appelle « Le chanoine à la lèvre tordue ».
D'accord.
Donc ça reprend un petit peu des thèmes holmesiens.
Mais sur la série...
Oui, sur celle-ci.
Ah oui,
oui, oui. Deux nouvelles.
Parce que l'espèce de mythologie que vous posez au départ, hein, vous les citez, il y a
oui.
Voilà. Ça c'est bon, le chien de Baskerville, on a compris que c'est le deuxième, et après vous dites qu'il y a les quatre signes, le rituel, le rat géant de l'hôtel Saint-Paul.
Voilà, tout ça sortira.
On les aura?
Oui, bien sûr. Ah. Oui.
Vous avez pour 10 ans, là.
Alors non, c'est parce que c'est un accord que j'ai avec 10-18, c'est une série close. C'est-à-dire qu'il est prévu 8 romans, 8 nouvelles. Voilà.
D'accord.
Et après, il y aura des fois un volume, des fois deux par an. Et ça finira en 1429, c'est-à-dire au moment où Jeanne d'Arc arrive. Voilà. Parce qu'en fait, le thème du roman, mais je peux vous le dévoiler, mais normalement c'est secret, c'est qu'en fait c'est Holmes qui fabrique Jeanne d'Arc. Voilà. À chaque roman, il y a une petite information... Et dans le dernier volume, on se rendra compte que c'est lui qui va construire Jeanne d'Arc. Voilà. Et c'est notre revanche sur l'Angleterre qui a brûlé Jeanne d'Arc.
Vous venez d'économiser... Combien il est?
Il 8 euros, non?
Vous venez d'économiser... Comment il n'y a pas le prix? C'est obligatoire, le prix.
Oui, ben, peut-être qu'ils ont oublié. Hein.
Oh, ben...
Parce qu'en Suisse, c'est plus cher.
Donc vous n'avez rien économisé.
Marcus Malt, vous avez fait des études de cinéma.
Oui.
Vous avez été musicien de rock. De jazz, de variété aussi. Variété ou chanson?
J'ai fait un petit peu tout.
D'accord. Très bien. Votre Garden of Love a été récompensé par une dizaine de prix littéraires. Et puis vous nous revenez avec Fanny et Freddy, celui de ceux qui construisent les bateaux ne les prennent pas. Pourquoi avoir publié ces deux longues nouvelles, belles nouvelles, ensemble?
En fait, la deuxième nouvelle, « Ceux qui construisent les bateaux ne les prennent pas », n'est pas une nouvelle inédite. Elle était sortie il y a déjà une dizaine ou une douzaine d'années.
Ah ouais ?
Ouais, sous un autre titre, d'ailleurs.
D'accord.
Ouais. C'était dans une petite collection à l'époque qui s'appelait « Noir urbain », et où on demandait à chaque auteur d'écrire une histoire, donc une histoire plutôt noire, puisque c'est quand même du roman noir, mais à partir d'un lieu existant. Et donc chacun choisissait un lieu, ça pouvait être une ville, une place, etc. Et puis donc inventer une histoire à partir de là. Et c'est vrai que ça m'a donné l'occasion, moi, de parler donc de cette ville qui s'appelle la Seyne-sur-Mer, qui est une ville donc du sud de la France, dans le Var.
Je crois que vous l'habitez.
Voilà, c'est effectivement la ville où j'habite, où je suis né et où j'habite toujours. Et c'est la seule fois donc où j'ai parlé finalement de quelque chose d'aussi proche de moi, parce qu'en général j'aime pas trop parler de choses comme ça qui me touchent de trop près. Mais voilà, en même temps, du coup, ça me donnait l'occasion de parler de cette ville, et notamment donc parce que c'était une ville où il y avait des chantiers navals très importants. et qui ont été donc détruits, qui ont fermé, et cette fermeture des chantiers a engendré beaucoup de malheurs dans cette ville. Voilà, donc.
Mais vous êtes assez sensible à, enfin, je vais le dire comme ça, à ces deux nouvelles, à fibre sociale, indiscutablement.
Oui, oui, c'est aussi pour ça que je les ai réunis d'ailleurs, parce que en fait, donc la première est inédite, mais en plus ça faisait un peu court parce que c'est un format un peu bâtard, quoi. Donc la laisser toute seule, ça faisait vraiment trop court. Et effectivement, il y avait je trouve qu'il y avait un lien entre les deux, quoi. Notamment, oui, cette destruction d'une certaine manière d'un monde ouvrier finalement, d'un monde industriel ouvrier qui a beaucoup morflé.
Alors, au moment de la crise des subprimes, Freddie Mac et Fannie Mae possèdent ou garantissent près de la moitié du marché américain des hypothèques, évalué alors à 12 000 milliards de dollars. Et la question que vous posez finalement, c'est jusqu'à quelle échelle nos vies peuvent-elles se réduire ? On a bien vu ce que ça provoquait, la crise des subprimes. Et puis en Grèce, il est en train de se passer à peu près la même chose.
Ouais. Oui, voilà, effectivement, donc la toile de fond de la première nouvelle, c'est la crise des subprimes aux États-Unis. Alors que moi, je suis pas, contrairement à Jean, je suis pas du tout un spécialiste en économie. Donc, en gros, je vois le résultat. Mm-hmm. Hein, je veux pas vous expliquer exactement comment ça a marché, mais le résultat, enfin, pour aller vite, très vite, c'est quand même des banques, des maisons de crédit, etc., qui ont organisé ce système-là, hein. Et au final, ça a donné donc des tas de gens qui ont perdu leur maison, qui ont perdu leur travail, qui ont perdu au final aussi pour certains la vie, tout simplement, parce qu'il y en a quand même un bon paquet qui se sont suicidés et puis qui ont été détruits d'une manière ou d'une autre. Et donc c'est vrai que je suis toujours un petit peu, comment dirais-je, un petit peu frappé par l'espèce de clémence qu'on a pour ces crimes-là, finalement. Parce que, pour moi, d'une certaine façon, ces gens ont du sang sur les mains, quoi. Mmh. Donc c'est indirect, certes, mais c'est quand même des assassins, quoi, quelque part, des meurtriers, en tout cas.
Et par exemple, quand vous prenez conscience de ça, et parfois on est secoué, hein, quand on fait le constat du résultat, vous avez eu envie de vous venger à titre personnel ?
Non, c'est pas à titre personnel.
Vous me voyez arriver.
Moi, je raconte une histoire. Ouais. Je montre des choses et je mets donc en l'occurrence en scène une des victimes de base de ce système-là, qui elle va, finalement se venger et se retrouver. Voilà, c'était le truc de se retrouver avec un de ceux qui sont responsables de cette situation. Mm-hmm. Donc une victime avec un responsable, parce que au final ils sont jamais.
Faut pas trop raconter parce qu'elle est sublimement écrite faut vraiment aller jusqu'au bout parce qu'on a des frissons du début à la fin. On va dire que Fannie est d'entrée de jeu assez inquiétante. On peut dire qu'elle a un œil de verre, qu'elle cache sous sa frange, ça lui donne une espèce de rigidité, comme ça. D'ailleurs, son surnom, c'est Minerve. Mmh. Et puis, c'est pas Minerve par hasard.
Non. Minerve, c'est effectivement la déesse de la guerre, entre autres. Mais, donc, c'est vrai que c'est. Après, voilà, encore une fois, vous avez raison d'insister là-dessus, parce que c'est un personnage particulier, c'est-à-dire, c'est un individu particulier. Oui. Donc, peut-être que si elle n'avait pas été non plus ce qu'elle est, c'est-à-dire une jeune femme. Au physique assez ingrat, on va dire. On sent qu'elle est dans la solitude, qu'elle n'a pas une vie franchement agréable. Et ce qui va se passer par rapport à la crise des subprimes, c'est un petit peu finalement la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Mmh. Et à partir de là, voilà, ça va déclencher certaines choses. Peut-être que si ça avait été quelqu'un d'épanoui dans la vie, etc., sa réaction n'aurait pas été la même. Donc c'est un mélange de causes et de raisons.
Je reviens à son surnom Minerve, parce que vous avez dit c'est la déesse de la guerre, effectivement, mais c'est aussi la déesse de la sagesse.
Oui.
Donc est-ce que dans le monde tel que nous le vivons, il faut parfois passer par les armes pour rétablir une certaine sagesse ?
Mais c'est vrai que... A priori, ça semble un peu paradoxal, être déesse à la fois de la guerre et de la sagesse.
Exact. Joker.
Non, disons que c'est vrai que parfois, je me dis que... Comment dire ça ? Est-ce qu'il y a d'autres moyens de faire comprendre à certains que...
voilà, qu'il ne faut pas faire ça, que ce n'est pas bien, que ça fait du mal aux autres.
Parfois, de le penser, ça libère aussi. Hein.
Ouais, bon, je ne pense pas que je serais capable de le faire, mais oui, de temps en temps, en tout cas, je me pose la question. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres moyens que la violence, parfois, pour...
Alors moi, je vais vous en souffler un, mais je ne vais rien vous apprendre, parce que le livre que vous avez écrit, c'est une très bonne arme pour faire prendre conscience aux gens de cette réalité-là. Vous nous parlez de deux mondes qui sont normalement totalement étanches, même si l'un se nourrit de l'exploitation de l'autre. Et du coup, vous créez une tension, et le lecteur, il est, j'allais dire, pris en otage, mais c'est presque ça. C'est-à-dire qu'on est en tension avec la situation et les personnages du début à la fin. Et forcément, on est obligé de prendre conscience du problème que vous soulevez.
J'espère, en tout cas, qu'on est obligé d'en prendre conscience. Moi, ma crainte, c'est que les gens qui sont, disons, du bord de ceux qui ont des responsables, on va dire...
Ils vous liront pas, vous n'êtes pas assez cher.
D'abord, ils ne me liront pas, c'est vrai. Et en plus, même s'ils me lisaient, je pense qu'ils sont tellement... dans un mode de pensée, dans un mode de fonctionnement tellement particulier, enfin qui est presque dans leur gène finalement, parce que souvent ce sont des gens qui dès les études, quoi, on les met dans un créneau comme ça, et puis finalement ils arrivent à penser comme ça et à même plus pouvoir penser autrement et à se dire que la vie peut avoir d'autres valeurs que l'argent, que toutes ces choses-là. Donc je ne suis même pas sûr qu'ils se poseraient la question, vraiment.
Alors je vais peut-être vous étonner, mais moi je m'en suis posé une autre de question. Je me suis demandé, finalement, pour vous, à titre personnel, comme auteur, comme écrivain, je me suis demandé à quel point l'histoire était importante. J'ai l'impression qu'elle est peut-être pas si importante que ça, tant l'écriture est travaillée, est fine, est subtile et à plusieurs niveaux. C'est Céline qui disait, hein, si vous voulez des histoires, achetez les journaux, moi je fais de la littérature, et je trouve que vous faites de la littérature.
Merci, j'essaye en tout cas. C'est vrai que, oui, je dis souvent que l'histoire n'est pas forcément le plus important pour moi, même si j'essaye quand même de raconter des choses qui peuvent être intéressantes, mais ces choses que je raconte, cette histoire que je raconte, doit effectivement passer avant tout par l'écriture. Et c'est d'abord ça que je travaille, c'est d'abord ça qui m'intéresse. Après, voilà, après, c'est vrai que finalement, si on regarde bien, on peut nous raconter n'importe quelle histoire, pourvu que ce soit bien raconté. Ouais. Enfin, bien raconté, ça ne veut pas dire grand-chose non plus, mais voilà... On donne le même sujet à deux auteurs, exactement, et ben on va avoir deux choses totalement différentes. Donc ce qui fait la différence, c'est la manière de raconter, c'est le style, quoi, en gros. Et moi, c'est plus ça, donc c'est ça, c'est ce à quoi je suis le plus sensible, même en tant que lecteur. Quand j'ouvre un roman, l'histoire va m'intéresser, sans doute, va me prendre ou pas, mais d'abord, c'est... le style de l'auteur qui va me toucher ou non. Quoi. Donc c'est vrai, je travaille d'abord ça.
Alors après, on peut se demander pourquoi on écrit. Et je me suis demandé si vous aviez lu Stieg Dagerman.
Ce quoi ?
Stieg Dagerman. Notre besoin de consolation est impossible à rassasier.
Non.
Parce que vous m'avez vraiment fait penser à ce livre, parce que dans les deux cas, j'ai senti comme une espèce de recherche de consolation ou je sais pas, de rédemption, comme s'il fallait se sauver d'une certaine manière.
Vous parlez de moi ou des personnages?
On va dire des personnages que vous avez écrits.
Je sais pas si ce que c'est. Moi, en fait, pour dire les choses assez simplement et avec beaucoup de prétention, quand j'écris quelque chose, un roman, une nouvelle, quelque chose, j'essaye, en gros, simplement de créer de la beauté. Première chose. Voilà, j'essaye.
Vous préférez être beau qu'être juste?
On n'avait pas dit que le débat allait...
Ah non, mais...
Moi, je me suis dit...
Moi, je ne fais pas des débats où on me dit j'ai écrit un livre avec des pages et avec des mots.
Je vois ça.
Pour élever le débat, Platon disait que c'était pareil. Si oui. C'est beau, c'est vrai. Et si c'est vrai...
Très juste.
Et Platon a toujours raison.
Et Platon a toujours raison.
Depuis longtemps déjà.
Et Eugène aussi.
Non, mais c'est vrai que finalement, oui, c'est vrai. En plus, Platon, c'est pas idiot ce qu'il dit. Mm-hmm. Donc, ça se rejoint peut-être finalement. Mais en tout cas, moi... consciemment, je recherche plus la beauté que la justice ou la justesse, je ne sais pas. Voilà. Et c'est vrai que c'est, disons que j'ai l'impression que c'est souvent, on a tendance à oublier ça, donc, et notamment dans le roman noir, puisque c'est quand même ce que je fais principalement. C'est-à-dire qu'on a tendance à effectivement vouloir montrer des aspects de la société, dénoncer entre guillemets des choses, etc. Voilà, donc ce qui est très bien. Hein, c'est pas la... Mais est-ce qu'on n'oublie pas qu'avant tout, voilà, un roman, c'est quand même, ça doit être ou ça doit tendre à être une certaine une œuvre d'art, quoi, en gros, pour aller.
Ouais, non, mais il faut pas avoir peur.
Et encore
des
une fois, voilà, c'est, ça paraît très prétentieux de dire ça, mais je suis très prétentieux en plus, donc je l'assume. Mais il me semble que si on vise pas ça, ben, c'est un peu dommage.
Je partage cet avis. On va parler, on va dire un mot de la deuxième nouvelle. Ceux qui construisent des bateaux ne les prennent pas. Elle est un peu moins folle. Elle est assez touchante aussi, je trouve. Dites-nous comment s'appelle votre inspecteur de police.
Il s'appelle... Son nom est Personne.
Ouais, Ingmar Personne. Alors,
c'est comme ça.
La première fois que j'ai lu, vous l'écrivez P-E-R-H-2-S-O-N. Et je me suis dit, ça y est, il surfe sur la vague du polar nordique et tout. Et puis après, quand j'ai dit à haute voix, j'ai dit, non, my name is nobody. Et c'est terrible, parce que... il dit, je suis comme la ville, je n'oublie pas, j'ai perdu mon âme quelque part sur cette plage, il y a 27 ans de cela, depuis je n'ai jamais cessé de chercher. Et quand personne ne cherche, ben forcément il ne peut pas trouver.
Oui, bien sûr. C'est vrai, donc c'est un personnage qui est d'origine suédoise, enfin ses parents étaient suédois, mais lui par contre a toujours vécu quasiment dans cette ville, à la Seine-sur-Mer. L'intrigue, si on peut dire, de la nouvelle, c'est donc lui, c'est un flic qui recherche.
Il est bourré de remords.
Ouais, mais on peut le comprendre après. Si... C'est assez ambigu. C'est, oui. Là non plus, je peux pas trop en dire non plus. Il recherche, disons, l'assassin, en tout cas ce qu'il pense être l'assassin de son meilleur ami. Donc qui est mort, quoi, qu'on a retrouvé mort un jour sur la plage, échoué. Donc,
mais il y a 27 ans.
Il y a 27 ans de ça, effectivement. C'est d'ailleurs ce qui l'a poussé, lui, à rentrer dans la police, parce qu'il a vu que l'enquête, finalement, s'est arrêtée, etc. Mais lui, donc, il est rentré dans la police, et il continue, 27 ans après, à chercher l'assassin de ce jeune garçon.
Et puis on va s'arrêter là parce qu'il faut qu'il lise le reste. Et ça me fait une excellente transition avec Eugène parce que là, du coup, on a un non finito.
Certes.
Qui va nous parler de Platon.
Et c'est pas exclu, mais il risque de nous parler de Jodassin aussi. Ouais. Puisqu'il y a Jodassin dans son livre aussi. Eugène, depuis plus de 20 ans, vous explorez, non sans un certain bonheur, les genres littéraires les plus divers, romans autobiographiques, à travers une série d'objets, ce qui n'est pas négligeable, guide de voyage d'un pays imaginaire, conte pour enfants, théâtre, chronique. Depuis plusieurs années, vous jouez vos propres textes.
Oui.
Hein, on a eu un débat l'autre jour, on a compris qu'il fallait bien vivre. Donc jouer ses propres textes, ça aide aussi à avoir une économie pour un auteur.
Et c'est un plaisir.
Et puis, vous animez des ateliers d'écriture, notamment à l'Institut littéraire suisse. Vous nous proposez aujourd'hui le livre des débuts à l'âge d'homme, sous-titre « Roman avec un S ». C'est la première fois que sur la couverture d'un livre, j'ai marqué « Roman avec un S ». Et il y a ça une bonne raison, c'est qu'en fait, vous nous proposez 11 premiers chapitres de 11 histoires.
Mmh, 11 débuts de roman.
C'est venu comment, cette idée ?
C'est venu comment ? C'est venu du plaisir d'inventer des histoires et puis de laisser ouvert la suite. Comme dit un personnage, pour répondre à votre question, il y a une historienne de l'art qui a étudié justement ce genre, le non finito. Elle dit, ne pas tout dire, c'est déjà beaucoup dire. Et ne pas tout montrer, c'est déjà beaucoup montrer.
Alors pour être franc, quand j'ai reçu votre livre avec la gentille notice de l'éditeur, où l'éditeur dit, Eugène, renoue avec le genre du non finito, je me suis dit, est-ce qu'ils n'ont pas inventé un truc juste pour justifier le bouquin ? J'ai cherché. Il n'y a pas grand-chose. On trouve deux, trois indications sur le non-finito dans le domaine de la sculpture. Mmh. Mais en littérature, je n'ai pas trouvé.
Oui, alors c'est surtout en histoire de l'art, en peinture et sculpture.
Sculpture, enfin, beaucoup, oui.
Giacometti, non plus, n'arrivait pas à finir ses tableaux. Oui. Et il le disait, ils sont interminables, les portraits qu'il faisait. Et alors... moi, ce qui m'intéressait, c'était plonger dans des univers, une fois l'économie, le monde économique, parce qu'il y a deux personnes bloquées dans un distributeur de billets, un local de distributeur de billets. Et très vite, ils se rendent compte que une personne viendra les aider parce que la caméra, il n'y a plus personne derrière. Le gardien qui était derrière la caméra a été viré pour mesure d'économie.
Ce qu'il faut dire, c'est qu'une des deux personnes travaille dans la banque.
Voilà, et c'est certainement
ça. Ça change évidemment complètement le rapport entre la banque et le client, puisque le client, il a quelque part sous la main la responsable.
Exactement.
Mais qui n'est évidemment pas que ça.
C'est nuit tendue. Sans doute, j'en sais rien. J'imagine. Et puis, d'autres histoires qui se passent. Une se passe à New York.
Ben, si vous voulez bien, on va en prendre une ou deux.
Ouais. Hein,
et puis, on va les raconter. La première qui est excellente, c'est un coursier à vélo qui se trouve à New York. Il est appelé pour transporter un colis. Et en fait, il découvre qu'il s'agit de transporter un organe pour une transplantation. C'est un cœur, et c'est peut-être pas n'importe quel cœur.
Ben, il y a eu une fusillade dans la journée. Un type a tiré sur des pompiers. Et puis, il se rend compte que son père était de congé ce jour-là. Mais tout à coup, il se rend compte que son père peut-être a été appelé de toute urgence. Et il se demande, mais il n'a pas la réponse, mais peut-être que vous, vous l'avez, s'il se demande si ce n'est pas le cœur de son père qui transporte sur le dos.
Oui.
Alors, puisque... Il y a des liens forts avec mon passé. Mon père est mort d'une crise cardiaque et mon frère est cardiologue.
Ah d'accord.
Toutes ces histoires ne tombent pas du ciel.
Vous n'êtes pas coursier à vélo?
Et non, mais j'en ai vu en me promenant une dizaine de jours à New York. C'est des fous. C'est des fous furieux.
Ouais.
Et puis, le challenge, c'est de faire plus vite que son collègue. Le challenge, c'est de ne jamais poser le pied par terre. J'en ai rencontré un, il m'a raconté ces challenges, pour nous, inutiles, mais pour lui, super importants. Je fais ma course sans poser le pied par terre. Voilà. Et puis, quand on les voit, ils ont un vêtement, ils ont une chaîne autour de leur torse, c'est la chaîne du vélo, un Tokyoki, c'est vraiment une tribu, c'est des nomades à vélo. Je ne sais pas s'ils dorment la nuit.
Non, et ils s'entraînent comme des sportifs de haut niveau, c'est de la folie.
Alors, je voulais parler de ces gens-là, et chaque fois sous forme de début, j'ouvre la porte et on verra. Enfin, c'est des tremplins.
Alors, puisque vous parlez de ça, vous avez peut-être la suite, moi je ne l'ai pas. Vous avez la suite de temps en temps? Quand vous avez terminé le premier chapitre, vous vous dites, moi je la verrai bien comme ça. Alors, surtout ne le dites pas, puisqu'on le dira tout à l'heure, il y a un concours pour, pour les suites.
Oui, alors dans ma tête, je présentais les personnages, je pose le cadre, je lance l'action. Et quand c'était vraiment super frustrant d'arrêter, j'arrêtais. En me disant que c'est là que toutes les ouvertures sont les plus grandes et le champ des possibles est maximum.
Oui.
Et c'est au lecteur de rêver la suite.
Alors, merci pour l'honnêteté. Je ne suis pas sûr que d'un point de vue marketing, ce soit la meilleure chose que vous ayez dite. Si vous voulez être frustré 11 fois, achetez le livre des
non,
débuts.
Non, si vous voulez être emporté 11 fois.
Bon, on a parlé de Stan. On va parler un peu de Vova. Parce que Vova a 12 ans, il vit dans un pays meurtri par la guerre qui ressemble étrangement à un pays des Balkans quand même. Il est orphelin, il ne possède qu'une seule chose, mais alors c'est une chose extraordinaire, c'est un voltigeur, un carrousel que tout le monde veut lui piquer.
Oui, il a ce voltigeur-là, et puis comme la paix vient d'être signée depuis quelques mois, il y a on ne sait pas qui a eu cette décision, en tout cas le petit garçon n'en sait rien. On a décidé de faire venir les principaux belligérants, plus le chef de l'ONU, c'est-à-dire M. Ban Ki-moon, mais il n'est pas nommé, faire un tour dans le voltigeur. Et c'est une mesure, c'est un symbolique, on fait la paix.
Elle est très très belle cette nouvelle, et elle est un peu anarchiste quand même.
Ben, elle est surtout désabusée, parce que c'est le carrousel des salopards. Ils se sont flingués pendant quelques années, puis ils ont décidé de faire la paix, mais ils se détestent tous entre eux, puis la guerre a fait de telles séquelles. Le point de départ de cette nouvelle, c'est des photos de Bertrand, je ne sais plus son nom maintenant, il était photographe au temps. Et il a fait une série de photos sur le Kosovo, puis il y avait ce voltigeur avec ce garçon. J'ai vu ce voltigeur et
c'est
le
garçon. C'est parti d'une image.
Ouais. Ça m'a tellement touché, il y avait un champ de boue autour, il y avait ce voltigeur sublime. Puis du coup, j'ai imaginé mon histoire, un événement politique autour de ce même carrousel.
Alors, puisque vous nous racontez chaque fois ce qui a provoqué l'envie de la nouvelle, ou de ce premier chapitre, j'ai envie de vous parler de l'appareillement. Parce que le narrateur de ce premier chapitre et sa femme Solange se rendent à Ostende, un 4 juillet pour être précis, fête de l'indépendance américaine. Alors, les vacances, c'est très sympa quand on s'entend bien, mais quand on s'engueule tout le temps, ça devient compliqué. Donc il y a un moment, ils s'engueulent pour tout, y compris pour le cornet de glace et presque pour Joe Dassin. Qu'est-ce qu'ils décident du coup? Enfin, qu'est-ce qu'elle décide?
Alors,
vous propose.
Oui, des engueulades, vu que je suis en couple depuis longtemps, je les fréquente, les engueulades. Et je me suis demandé, une fois, j'étais à une terrasse, il y avait un autre couple qui s'engueulait. C'était terrible, j'ai l'impression que c'était miroir de me voir aussi bête que ce mec en train de répondre à son épouse, etc. Et je me suis dit, et si on changeait ? J'allais vers ces gens, je leur disais, on pourrait changer de couple. C'est-à-dire, vous partez avec mon épouse et moi, je pars avec madame. On fait ça pour une journée, on verra ce qui se passe. Je ne l'ai pas fait, parce que quand même, aller jusque-là, c'est gonflé. Donc, jouer avec sa propre vie, ça va loin quand même. Je ne l'ai pas fait, mais j'avais cette idée en tête. Et puis, en lisant un livre de
DSK ?
Non. Comment il s'appelle ? Jared, celui qui a écrit Effondrement, des livres.
Oui.
Voilà. Il parlait de l'appariement, le fait, un terme que je ne connaissais même pas, j'ai regardé dans
c'est
le
très
dico.
Joli.
Qu'est-ce que c'est que l'appariement ? C'est simplement le fait de faire des couples. En biologie, on parle d'appariement. Et j'ai tout à coup, le verbe apparier, j'ai compris que c'est l'histoire de l'humanité depuis des milliers d'années. On ne fait que s'apparier. De Jésus qui est né grâce à un appariement impossible, c'est-à-dire un très très vieux monsieur avec une très jeune femme, et Jésus est né. Et ainsi de suite, il n'y a que des appariements célèbres avec des mariages en Angleterre, de princesses, voilà. Donc il y avait ce mélange de mots appariés et puis cette envie que j'ai eue une fois, je confesse, d'aller vers un couple qui s'engueule pour changer, changer d'histoire.
Bah, donc, ce sera répété et déformé.
Et je me suis demandé qu'est-ce qui se passe si il y en a un des deux couples trouve que c'est bien. Et alors, s'ils ont des enfants, comment on fait pour la suite des événements ? Et la suite, moi, je ne la connais pas, mais c'est ce moment-là où ils décident de tester une journée avec le couple de l'autre et raconter.
Qu'est-ce que vous avez avec le 4 du mois ? Parce que je disais tout à l'heure, ça se passe le 4 juillet. Mmh. Et puis, lorsque Mathilde part à la recherche de Marie, qui a disparu un 4 août...
C'est vrai. Alors, j'avoue que je n'avais pas remarqué. Vous me le dites, là.
C'est à ça qu'on sert aussi.
Bah, je dois être aussi un peu parcouru par des trucs subconscients, ça sort comme ça. Je dois bien aimer les collections, je dois bien aimer les chiffres, puisque, par exemple, mon autobiographie, La Vallée de la Jeunesse, je l'ai raconté à travers 20 objets. Là, c'est 11 débuts de roman. J'aime bien le chiffre 17, parce que c'est mon père qui m'a appris que le chiffre 17, il est divisible que par 1 et lui-même. Donc, personne ne sait ce qu'il y a dans les nombres premiers, en fait. Bon, mon père était mathématicien, il arrivait à me faire rêver des choses comme ça. Donc, il y a des 17, souvent, des personnages ont leur anniversaire le 17 du mois.
Alors, ce qui est intéressant, je parlais de Mathilde qui part à la recherche de sa sœur Marie, sa sœur jumelle.
Oui.
Elle se donne 4 ans.
Oui. Oui, au-delà des chiffres...
Non, elle se donne 4 ans. Pas au-delà des chiffres.
Ben, je me suis dit, puisqu'on parle le 4 août, ça fait 4, et puis août, c'est 8, ça se divise par 2 et on obtient 4. Allons-y pour 4 ans. Les personnages proposent de rester 4 ans à attendre. Donc, c'est deux sœurs jumelles, et une des deux disparaît. Et sa sœur jumelle est vraiment désespérée. Pourquoi sa sœur a disparu et se promenait dans un champ, puis on ne l'a plus jamais revue. Puis très vite, on lui dit, mais la police répond, on va arrêter l'enquête parce qu'elle a peut-être voulu partir, vous savez, ça arrive. Et justement, j'étais fasciné par ces gens qui décident de partir, laissent tout tomber et disparaissent. C'est un truc vraiment tellement choquant parce que la police dit, si on la retrouve, je demanderai d'abord à la personne si elle veut être retrouvée et si elle le veut, je communique son adresse. Mmh. Voilà, une personne qui décide de démissionner de sa famille, elle quitte tout. Tout son passé. Bon, dans ma famille, il y a une disparition.
Ah oui ?
Quelqu'un a disparu de ma famille et on ne l'a pas retrouvé. Pour l'instant, je n'ose pas raconter cette histoire concrètement, mais du coup, je raconte dans les Perséphones, puisque j'ai pris ce modèle Perséphone qui a disparu dans l'Antiquité, et sa mère l'a cherché partout.
Racontez pas trop, parce qu'il faut que les gens découvrent. C'est magnifique, la fin de ce premier chapitre.
Un mélange entre Perséphone de l'Antiquité et puis la vraie vie actuelle. Alors, j'ai écrit ce début-là autour du syndrome de Perséphone qui est enlevé, en tout cas qui disparaît. C'est vraiment des histoires qui viennent de moi. C'est pas parce que je raconte pas tout qu'elles ne me touchent pas, elles ne me concernent pas. Mais je joue le jeu de la porte ouverte, de l'ouverture des possibles.
Alors, il y a la question du libre-arbitre, dans ce que vous venez de raconter. Finalement, la personne a le droit de vouloir disparaître et de ne communiquer à personne qu'elle a disparu. Il y a aussi des gens qui ont le droit de ne pas avoir envie que leur maison soit repeinte en rose.
Oui. Bon, c'est inspiré d'une histoire vraie. Il y a vraiment.
Ah, c'est une histoire vraie.
Mattel a, pour lancer
une Barbie
a fait une opération marketing à Londres. Ils ont peint une rue en rose.
Mais peint entièrement, ouais. Intégralement.
Le trottoir,
les voitures, ouais. Tout.
Le rose Barbie était dans cette rue. Et moi, je trouve ça un acte barbare. Mais pour y arriver, je suis sûr que Barbie, Mattel, a demandé l'autorisation ou payé de l'argent à tout le monde. Et je me suis demandé, c'est le début, qu'est-ce qui se passe s'il y a un couple de retraités qui dit non, on ne veut pas de ce machin. Alors, du coup, mon entreprise s'appelle Battel.
Oui, il y a un institut à Genève qui a dû aimer.
C'est juste. On peut pas faire attention à tout. Je me suis demandé comment réagirait Battel. Ben, ils disent, s'il y a des locataires ou des propriétaires qui disent non, nous on laisse tout tomber. Donc la pression monte sur ce couple. Ouais. Et jusqu'où sont prêts à aller les gens pour obtenir 40 000 dollars en compensation du fait que leur rue est peinte, 40 000 livres sterling, en compensation du fait que leur rue est peinte en rose. Donc j'imagine que ce sera, qu'il y aura vraiment des choses horribles qu'on va faire à ce couple âgé pour qu'il finisse par craquer et qu'il accepte.
Alors, ce qui est marrant, c'est que quand on lit le début de ce premier chapitre, on a l'impression que c'est deux vieux. Alors, ils ont bien raison de se défendre, mais on a l'impression que c'est un peu des vieux grincheux quand même qui sont d'accord avec pas grand-chose. Et puis, il y a une espèce de pirouette à la fin qui est génialissime. On raconte pas, ils vont devoir lire, mais du coup, ça modifie complètement la perception qu'on a des personnages. Et j'ai l'impression que vous avez bien joué avec ça aussi, hein, des espèces de points de bascule qui font changer complètement le point de vue.
Oui, alors bon, le principe d'une nouvelle, c'est quand on l'a fini. Il faut que la chute soit vraiment fantastique ou étonnante. On a envie de tout relire pour voir où on s'est fait avoir. Bon, c'est une manière de faire des nouvelles, c'est pas la seule. Moi, j'ai aussi joué avec ça, mais n'empêche que la fin n'est pas connue. Et donc, ça reste des débuts de roman et pas des nouvelles.
Oui, alors on a dit, c'est un principe qui s'appelle le non finito. Il y a aussi un principe qui s'appelle le transversario, parce qu'il y a des nouvelles qui s'interpénètrent. Mais pas beaucoup, hein, mais...
Il y a des échos, elles s'interprenaient un peu. Par exemple, une histoire de cette historienne de l'art qui a écrit sur le non finito, une thèse, et elle trouve aucun boulot, c'est une historienne de l'art russe, elle trouve aucun boulot à Genève, et puis elle prend le journal laissé dans le tram, et puis elle voit qu'il y a un fait divers qui est raconté, qui était justement ces deux personnes bloquées dans un distributeur de billets. Mmh. Puis elle lit l'article, se dit, mais c'est incroyable comment on a pu en arriver là. Mais on ne sait pas où on en est arrivé. Ah oui. Donc il y a des échos, mais je n'ai pas voulu que les histoires se... fait changer l'autre, pas à ce point-là.
Oui, et puis cette historienne de l'art, elle fait sa thèse sur le non finito, c'est ça qui est intéressant. Du coup, la mise en perspective est telle qu'on comprend votre démarche. Enfin, c'est plutôt bien foutu. Moi, je dois dire que je vous tire mon chapeau. La dernière est incroyable. Quel est le but de Bauman et Lemak, qui est un institut qui invite à Montreux des scientifiques du monde entier? Ils n'iront pas plus loin que le quai de la gare avec la consigne, hein, grosso modo.
Si, après, ils vont prendre le train. Mais donc, le principe, c'est qu'il y a eu une carte Goldsus. J'ai inventé un personnage, un orfèvre, qui, pour honorer Charles Quint, qui avait un empire mondial sur lequel le soleil ne se couchait jamais, il a fait une carte gigantesque. Une carte, par exemple, aussi grande que la chambre, je pense, que c'est un terrain de tennis. On dit que c'était grand comme une salle de bal. Voilà. Il a fait une carte tout en or, en représentant tous les territoires de Charles Quint. Et comme il a travaillé pendant des années, elle était prête, et Charles Quint a refusé d'aller la voir parce que c'était justement le jour où il abdiquait. Quand la carte était prête, c'était trop tard. Et vexé, cet orfèvre, Goldsus, l'a recouvert d'un plancher. Mais il a laissé 10 indices dans 10 cartes pour qu'on retrouve sa propre carte. Donc le trésor, c'est la carte, clairement. Je suis fasciné par les cartes et... J'ai fait un atelier d'écriture qui se passait sur le quai 1 de la gare de Montreux. Il y avait un local ouvert et puis on a fait un atelier d'écriture.
Le soir où Stevie Wonder se produit au Montreux Jazz Festival. C'est pas négligeable.
C'était ce soir-là. Et il y avait du monde qui venait de partout. Et puis j'ai proposé aux gens d'écrire une histoire où il y a un rendez-vous entre trois personnes ici à la gare de Montreux le soir où Stevie Wonder fait son concert. Et moi, je suis parti dans mon histoire de spécialiste des cartes, trois spécialistes qui sont mandatés par l'Institut, qui est fictif aussi, et cet Institut a volé des cartes inédites au Vatican, dans plein de collection, des cartes qu'on n'a jamais vues. Et il a bourré les consignes de la gare de Montreux de dizaines de cartes. Et il leur demande à ces trois spécialistes, vous avez un week-end, parce qu'après il y a Interpol qui va nous courir derrière, pour trouver les 10 indices, et comme ça on trouvera la carte Golsus. Cette histoire-là, c'est la plus proche qu'on pourrait appeler d'un truc à la Dan Brown, un roman clé avec un peu érudit sur l'histoire. Voilà. Mais la suite, je ne la connais pas. Ça reste ouvert.
Alors justement, les suites, vous ne les connaissez pas. Et avec votre éditeur, vous avez eu une très très bonne idée. Vous avez lancé un concours.
Alors, le livre tient en soi. C'est vraiment des débuts de roman.
Je confirme.
On peut faire la suite comme vous voulez dans votre tête. Mais si vous voulez jouer le jeu, c'est possible de...
D'écrire la suite.
Choisir un des débuts, écrire la suite en 40 000 signes maximum, ce qui fait une 10, 15 pages d'ordinateur, et nous envoyer. Et on essaiera, le but c'est de recevoir des super suites, et on fait un tome 2, qui s'appellera peut-être le livre des suites, on verra.
Ouais.
Pour le salon du livre de Genève au printemps prochain.
Et puis si c'est bien, il y aura un nouveau concours, et puis en 2017, on aura le livre des fins. Voilà.
Top ça, très bien. Donc voilà, il y a des flyers qui sont là, le concours est ouvert, c'est jusqu'à début janvier, si vous voulez vous lancer.
En tout cas, c'est une très très bonne idée. Il nous reste 5 minutes, si vous avez des questions pour nos auteurs, c'est le moment ou jamais. On vous écoute. Attendez, on vous apporte un micro, il semblerait que ça ait été prévu, je prends tout le monde de court comme d'habitude, et tout le monde court. Et le micro arrive. Vous faites comme si vous mangiez une glace et on vous écoute.
Oui, j'ai juste un petit commentaire. Au Japon, il y a des agences spécialisées en faire disparaître des gens. C'est-à-dire qu'ils organisent la disparition sociale d'un personnage.
Okay.
Parce que perdre la face au Japon, c'est très difficile.
C'est la fin de la vie sociale.
C'est soit le suicide, soit ça. Et donc, il y a des agences qui font ça, qui s'occupent de nettoyer des comptes en banque, d'Internet, de domicile, des registres, tout, de A à Z, pour que la personne devienne un néant.
Mais ça fait une super suite à mon début, ça.
Alors, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, mettez-vous d'accord entre les trois pour qu'il n'y en ait qu'un des trois qui utilise cette information.
D'accord.
OK, merci pour l'information. Autre intervention, remarque, question ? Interrogation ? Réclamation ? Non plus ? Eh bien, il nous reste à remercier.
J'ai encore une chose, juste.
Oui.
Je fais une lecture vendredi prochain du livre des débuts.
La minute marketing d'Eugène.
Il y a une série de lectures qui s'organise au cinéma Bellevaux à Lausanne. Donc ça devient,
qui est un endroit génial.
Ça devient des soirées littéraires au cinéma. Ça commence vendredi prochain, le 11 septembre. Et puis, il y en a jusqu'en janvier prochain. Moi, je lirai mon histoire, le 11 septembre, mon histoire de coursier à New York, c'est top.
Jean Daillon, une étude en écarlate, c'est chez 10-18 dans la formidable collection des grands détectives créée par Jean-Claude Silberstein. Marcus Malte, Fanny et Freddy, c'est chez Zulma, qui est vraiment un éditeur qui publie des trucs depuis 2 ou 3 ans absolument extraordinaires, et vous n'échappez pas à la règle. Eugène, le livre des débuts, roman au pluriel à l'âge d'homme. Bah, tous les trois méritent des applaudissements, voilà.